Birmanie. Midi 10 à Paris, fin de ce journal.
Merci beaucoup RFI, midi 10 également à Bordeaux. Vous écoutez le plat de résistance sur la clé des ondes. On continue nous aussi de réfléchir sur la situation politique actuelle. On va prendre des nouvelles du Front populaire, du rôle que les syndicats peuvent jouer dans cette période. Et on se demandera quelles circonscriptions peuvent basculer ou bien à gauche ou bien à l'extrême droite dans les 3-4 semaines à venir. Avant tout, quelques infos complémentaires au journal de RFI et local à Bordeaux, le journal Sud-Ouest, et dans toute la région d'ailleurs, n'est pas paru aujourd'hui. Les journalistes du quotidien sont en grève. La direction prévoit la suppression de 118 postes, dont 22 journalistes, soit quasiment 10% de la rédaction. On en parlera en fin d'émission avec une représentante du syndicat national des journalistes. On a déjà parlé ici des menaces qui pèsent sur Abdourahman Ridouane, le président et imam de la mosquée de Pessa, qui est accusé par la préfecture de Gironde de tenir, notamment sur les réseaux sociaux, des discours hostiles aux valeurs de la République. Le 31 mai dernier, Abdourahman Ridouane était entendu par la commission départementale d'expulsion des étrangers. Et cette commission vient de rendre son avis, il est négatif. Selon elle, aucun élément ne permet d'établir des comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'État, ce qui est le seul motif légal qui permettrait son expulsion. Cet avis, toutefois, il n'est que consultatif. La préfecture doit donc maintenant décider de poursuivre ou non sa démarche, mais elle s'exposera dans tous les cas à un recours du principal concerné devant la justice administrative. Et on revient donc à l'actu politique. D'abord, deux, trois infos de ce qui se passe sur Bordeaux. Une assemblée antifasciste avait été annoncée pour ce soir à 19h, place Sainte-Croix. Mais la préfecture a pris un arrêté pour interdire ce regroupement. Arrêté justifié par la crainte de dégradation. Depuis, un nouvel appel circule sur les réseaux pour une manifestation au départ de la place de la Victoire. Ce soir, donc jeudi, à partir de 21h. Par ailleurs, côté électoral, suite à l'annonce d'un Front populaire, Nicolas Thierry, à député sortant, Nicolas Thierry est NUPES écologiste, est officiellement candidat de l'Union de la gauche et des écologistes pour la deuxième circonscription de Gironde. Il organise son lancement de campagne ce soir à 18h à Darwin, en compagnie de sa suppléante Florence Guéry. On a déjà annoncé hier que Loïc Prudhomme, sur la troisième circonscription, était lui aussi officiellement candidat et devrait suivre également Alain David, qui était élu en 2022 NUPES PS sur la quatrième circonscription de Gironde. J'accueille tout de suite notre invité en plateau, Hugo Fourcade. Salut Hugo.
Salut.
Tu es doctorant en sciences de l'éducation, tu fais une thèse sur le développement du pouvoir d'agir. Tu es aussi militant à la France Insoumise sur la deuxième circonscription de Gironde, donc celle qui fait la rive droite et Bordeaux-Centre.
Oui, c'est ça.
Et je signale que tu es aussi administrateur bénévole de la Clé des Ondes. Et puis on est au téléphone avec Cécile Velasquez. Bonjour Cécile.
Bonjour.
Toi, tu travailles à la Caisse primaire d'assurance maladie de Gironde, la CPAM. Tu es militante à la CGT, notamment à la Fédération des organismes sociaux de la CGT, qui regroupe en deux mots les travailleurs travailleuses de la Sécu, c'est ça ?
Toute la sécurité sociale, mais également France Travail, les aides à domicile, enfin un secteur très large et très concerné du coup par les questions sociales. Mmh. Et je pense qu'on va être amené à en reparler
exactement.
Très rapidement.
Et tu fais aussi partie de la commission exécutive confédérale de la CGT, donc les représentants nationaux de la CGT. Pour commencer, un mot sur les positions que la CGT et ta fédération ont prises dans le débat public ces derniers jours. Il y a eu un communiqué d'abord intersyndical mardi, intitulé « Après le choc des Européennes, les exigences sociales doivent être entendues ». Un communiqué qui disait qu'il faut un sursaut démocratique et social. La CGT appelle, comme beaucoup d'autres syndicats, à manifester ce week-end partout en France. À Bordeaux, je le rappelle, la manifestation, elle partira de la place de la Bourse à 14h. Ta fédération, elle va même plus loin, avec un communiqué d'hier que je vais citer et qui dit « Fidèle à ses valeurs humanistes, de solidarité, de justice et de progrès social, la Fédération nationale des personnels des organismes sociaux CGT prend toutes ses responsabilités en s'engageant aux côtés du Front populaire. Soutenons le Front populaire tout en restant fidèles à nos revendications. » On va revenir peut-être sur ces revendications, mais pourquoi cette décision aussi forte? Je ne sais pas si d'autres syndicats sont allés jusque-là et sont exprimés si clairement de s'engager aux côtés des partis publics dans le Front populaire, Cécile ?
Ben, tout simplement parce qu'on considère que, comme un peu Sophie Binet le disait dans un ouvrage qu'elle a repris, avant il était minimum un quart face au fascisme, aujourd'hui il est minimum un cinq. On n'a jamais été aussi proche avec la décision d'Emmanuel Macron de dissolution, de faire arriver directement l'extrême droite au pouvoir. Et nous, ce qu'on veut surtout dire à l'ensemble des salariés, des gens qui ont voté au Rassemblement National parce qu'ils souffrent, dire que l'extrême droite, ça ne s'essaye pas. Ça a déjà été fait dans d'autres pays et les conséquences sont absolument dramatiques sur la population notamment et sur les plus fragiles d'entre nous. Donc la priorité, c'est de dire qu'on doit absolument lutter contre l'extrême droite. Après, on l'a bien vu, hein, la violence sociale d'Emmanuel Macron ces dernières années n'est pas acceptable non plus pour les travailleurs et leurs représentants que nous sommes. Donc face à ça, nous ce qu'on veut, c'est on a des propositions, des revendications à faire, et pour ça, il faut qu'elles soient portées, mais par des gens qui sont unis. Donc c'est pour ça que nous, l'idée du Front Populaire nous convient, mais c'est à la partir d'un programme, et donc on attend des mesures fortes, qu'elles soient reprises, et bien entendu, nous en tant que syndicat, on sera vigilant à ce que ces mesures ensuite soient mises en œuvre le plus rapidement possible, dans l'intérêt de toutes et tous.
On reviendra peut-être là-dessus. On a pu voir, entendre des personnes qui sont des travailleurs, des travailleuses, des personnes précaires qui votent pour le Rassemblement National. Pourquoi le RN n'est pas l'ami des travailleurs et des travailleuses, Cécile ?
Ben parce que quand il en a eu l'occasion à l'Assemblée nationale avec ses 89 députés, à chaque fois qu'il y a eu des propositions de loi qui ont été faites pour faire avancer nos droits, ou ne serait-ce que par exemple pour l'augmentation du SMIC, à chaque fois, le Rassemblement national a voté contre. Et ces jours-ci, par exemple, vous entendez beaucoup parler dans toutes les tractations qu'il y a, Jordan Bardella a annoncé officiellement qu'il renonçait à la fameuse retraite à 60 ans, qui déjà était très floue, mais il y renonce tout simplement pour pouvoir faire alliance avec Éric Ciotti et le peu de Républicains qui lui reste. Donc on voit bien qu'à chaque fois qu'il en a l'occasion, le Rassemblement national ne prend aucune mesure favorable pour les populations les plus précaires et les travailleurs les plus mal payés de ce pays.
Peut-être vous en particulier, dans les organismes sociaux, dans tout ce qui est lié à la sécurité sociale, qu'est-ce que vous craignez et qu'est-ce qui vous arriverait à vous et qu'est-ce qui arriverait à la Sécu avec un Rassemblement national au pouvoir ?
Déjà, dans un premier temps, le Rassemblement national, c'est aussi la voix du patronat. Donc, en fait, pour eux, ce qu'ils veulent, c'est réduire toutes les cotisations versées par les entreprises. Donc, ce qui veut dire que pour la sécurité sociale, ça assèche les financements. Donc, on ne peut plus financer l'hôpital public, on ne peut plus financer les soins et, bien entendu, une baisse des droits sur les remboursements. Donc, les premiers effets seront absolument immédiats sur le financement de la sécurité sociale qui, aujourd'hui, permet quand même à certains de plus vivre dans la précarité avec notamment le fait d'avoir des indemnités journalières, les allocations d'aide au logement pour la CAF également. Donc on voit bien le Rassemblement National, pardon, le lapsus, hein, mais en même temps, il faut se dire que même le nom a changé, mais les idées restent. Et c'est des idées qui sont absolument faites pour le grand patronat. D'ailleurs, c'est pas un hasard si Vincent Bolloré, notamment, est aussi proche de l'extrême droite de Reconquête ou bien du Rassemblement national en leur donnant la parole. C'est pas un hasard. À chaque fois que l'extrême droite est arrivée au pouvoir, c'est avec l'aide du patronat.
Puisqu'on parle de sécurité sociale, ces jours-ci, on parle aussi beaucoup de la réforme de l'assurance chômage qui a été mise en avant par le gouvernement Attal ces derniers mois, qui a été votée avant la dissolution et dont Gabriel Attal nous dit que le décret sera signé, ça va se faire là début juillet. C'est un recul là aussi très important. Ça paraît fou que dans cette situation-là, dans cette crise-là, le gouvernement sans assemblée continue et s'obstine et dise on continue, on fonce et on va réformer cette assurance chômage, Cécile Velasquez.
Tout à fait. Alors, on voit bien une fois de plus que Emmanuel Macron, parce que c'est lui qui porte bien entendu tout le programme politique et sa mise en œuvre aujourd'hui, est radicalisé en fait. Puisque donc tout simplement prendre ce décret alors que le Parlement n'est pas là pour faire exercer son contrôle démocratique, déjà ça va contre l'annonce qu'il nous a faite lors de la dissolution, puisqu'il soi-disant qu'il voulait redonner du droit au Parlement. Donc là c'est absolument le contraire, parce qu'un décret ça passe par-dessus le Parlement. Et surtout, ça veut dire que ça va concerner et baisser les allocations de plus de 250 000 demandeurs d'emploi, donc dans un délai très proche, à partir de décembre. Et donc, ça va de fait faire plonger ces personnes-là dans une pauvreté encore plus grande. Donc, c'est absolument inacceptable dans cette période. Ce que je rappelle, hein, depuis Emmanuel Macron, la pauvreté a augmenté de plus d'un point et ça veut dire plus d'un million de personnes qui ont besoin d'avoir recours aux aides sociales ou alimentaires.
On va continuer dans cette émission à parler un peu de ce qui est possible, ce qui peut être fait de la part de la gauche dans ces maintenant deux semaines et demie de campagne. Le rôle des syndicats, on pourrait imaginer qu'il est plus dans la longue durée avec la construction de solidarité, de bagarres sur le terrain, dans les entreprises, qui partent des entreprises, des conditions de travail. J'entendais une interview de Sophie Binet, secrétaire générale de la CGT, qui disait « c'est par l'action syndicale qu'on rassemble à partir du travail pour gagner des mobilisations ensemble ». Ça, c'est plutôt du temps long. Qu'est-ce qui peut être fait? Quel peut être le rôle d'un syndicat dans un temps très court comme celui-là? Qu'est-ce que vous réfléchissez à la CGT, dans ta fédération? Comment être utile et comment se mobiliser là, d'ici deux semaines et demie, Cécile Velasquez?
Alors ben déjà, en fait, il y a des choses qui peuvent être menées dans un temps rapide. Et à la CGT, donc, on a décidé pendant ces trois semaines ou moins de campagne qu'il y a, de faire en sorte qu'on mette de côté les réunions, on va dire, avec les employeurs et institutionnels pour, au contraire, aller au plus proche des salariés. Alors, dans les entreprises, déjà, pour expliquer et décrypter les incidences du vote de l'extrême droite, par exemple, pour la sécurité sociale, ça voudrait dire qu'on serait amené à contrôler les papiers, à refuser, par exemple, peut-être des aides à des personnes au simple motif qu'elles sont étrangères. Donc on voit bien que c'est des modifications profondes pour nos valeurs et nos conditions de travail. Donc on va expliquer ça aux salariés, mais aussi en tant que syndiqué, on va se rendre disponible pour aller faire des tractages, par exemple, sur les marchés, répondre s'il y avait besoin d'aide et de coups de main, tout simplement pour aller à la discussion par rapport aux électeurs. Et puis on va aussi communiquer, par exemple, sur des choses simples, comment faire une procuration, comment trouver quelqu'un pour aller voter le 30 juin et le 7 juillet, parce qu'il y a aussi, je le rappelle, il y avait encore 48% d'abstentionnistes. Donc il y a le discours à porter vers ces personnes-là pour leur dire c'est le moment d'aller voter pour des candidats uniques qui vont porter des propositions qui sont dans l'intérêt du monde du travail. Et dans ce cadre-là, on doit appeler à mobiliser plus largement encore que nos simples syndiqués. Il faut vraiment aller vers l'ensemble des salariés, d'où le principe d'assemblée générale à démultiplier un petit peu partout ou de réunions publiques à tenir là où c'est possible.
Faire campagne en tant que syndicaliste, est-ce que ça veut dire aussi, peut-être, tu en parlais un peu tout à l'heure, dire qu'on ne donne pas un mandat de confiance aux députés, aux personnes qui seraient élues, mais que dans tous les cas, on continuera à être là, à mettre la pression s'ils sont élus pour conquérir les droits? C'est vrai qu'il y a la référence à 1936, le Front Populaire, c'est ça, c'est il y a un gouvernement, il y a des députés qui sont élus, un gouvernement qui se met en place, et derrière il y a des manifestations qui les poussent à aller plus loin que ce qui avait été promis.
Tout à fait, parce qu'on se doute bien que si le Front Populaire l'emporte, derrière il va y avoir immédiatement des réactions du patronat, de l'Union Européenne, pour faire en sorte que les mesures ne puissent pas être prises. Donc nous, on aura en tant que syndiqués à organiser ce qu'on appelle une sorte de contrôle du monde du travail et de soutien pour dire les mesures qu'on veut, on les a exprimées dans les urnes, maintenant il faut qu'elles soient mises en application le plus rapidement possible, et tant pis si ça ne convient pas au grand patronat ou bien à l'Union européenne, notamment. Voilà, donc c'est pour ça, c'est vraiment 36, c'est une référence, et tout justement parce qu'on voit bien les déceptions qu'il y a pu avoir précédemment sur d'autres périodes où la gauche a été au pouvoir, font qu'aujourd'hui, certains sont découragés. Et à ces gens-là, nous, on veut leur dire que non, il faut qu'ils viennent absolument voter pour les mesures et qu'on veillera ensemble à ce que ces mesures puissent être mises en œuvre dans l'intérêt de toutes et tous.
Dernière question, peut-être sur l'aspect géographique. On a vu dans les cartes que le vote RN était notamment dans les campagnes. Où en êtes-vous à la CGT de l'ancrage dans ces territoires-là? Est-ce que là aussi, on peut expliquer une partie de ce vote et de la faiblesse du vote à gauche par le fait que les syndicats se sont un peu retirés de ces endroits-là? Et comment aller les reprendre, en tout cas être présent à nouveau dans ces secteurs et auprès de ces gens-là, Cécile Velasquez?
Alors, il faut savoir que le vote, les difficultés de vote en milieu rural, c'est là aussi parce qu'on a constaté, c'est sur ces endroits-là où les services publics ont le plus reculé. Donc souvent, le fait de perdre ces services publics fait qu'on peut avoir un vote protestataire. Et donc, le vote protestataire, c'est le Rassemblement national. Ensuite, il faut quand même savoir que la CGT, par rapport à l'ensemble des syndicats et des partis politiques, nous avons plus de 800 unions locales sur l'ensemble du territoire. Donc ça veut dire qu'on peut être aussi un point d'appui pour aller diffuser nos idées et pour aller faire campagne. Donc il est important qu'on puisse, dans toutes nos unions locales, avoir suffisamment de monde et de bras pour aller tracter, par exemple. Donc c'est pour ça aussi que je lance un appel à la mobilisation de toutes celles et ceux qui sont pas syndiqués, mais qui, dans cette période, pensent qu'il faudrait aussi pouvoir s'engager. Donc voilà, j'incite vraiment les gens à nous rejoindre. Et après, il faut se dire aussi qu'il y a des problématiques auxquelles on doit pouvoir répondre concernant la ruralité, hein, que ce soit les accès pour le transport, mais il y a aussi la question de l'agriculture auquel la CGT, bien entendu, veut répondre et veut pouvoir répondre. Et c'est d'ailleurs pour ça que depuis quelque temps, nous avons des échanges nombreux avec la Confédération paysanne, parce que nous aussi, on pense qu'une autre agriculture est possible et une agriculture qui permette à chacun de bien vivre. Et donc, c'est pour ça aussi que nous, on ne s'interdit pas, justement, de s'adresser au monde de la ruralité.
Eh bien, merci beaucoup Cécile Velasquez d'avoir été avec nous par téléphone. Je rappelle que tu travailles à la Caisse primaire d'assurance maladie de Gironde et que tu es dans la Fédération des organismes sociaux de la CGT à la Commission exécutive confédérale de la CGT. Merci beaucoup à toi. Je rappelle enfin qu'il y a la manif intersyndicale à Bordeaux samedi à partir de 14h, place de la Victoire. Merci beaucoup Cécile.
Merci à vous.
Et bon courage pour la suite. On est toujours dans le plat de résistance sur la clé des ondes. Hugo, Fourcade, on a laissé l'interview avec Cécile se dérouler. Est-ce que tu as une réaction à tout ce qui vient d'être dit là déjà ?
Non, ben, entièrement d'accord. Je pense qu'il y a une situation qui est à la fois l'effroi qui est lié au résultat du RN dimanche et à la possibilité concrète que celui-ci passe dans les urnes et constitue un gouvernement dans 20 jours. Et à la fois, je pense, la détermination, au vu de ce qui se passe avec la dynamique de Front Populaire, pour peut-être, de l'autre côté, nous lui opposer à Macron une cohabitation dans 20 jours. Mmh. Et je pense que c'est un peu ça, ce moment dans lequel on est, ce sprint dans lequel on est. Et d'une certaine manière, je ne sais pas quel était le plan d'Emmanuel Macron quand il a fait cette dissolution. J'ai plutôt l'impression qu'il attendait une division à gauche et une alliance forcée à droite. C'est le scénario complètement inverse qui est en train de se passer. Il y a une guerre des droites absolue qui est en train d'avoir lieu entre l'explosion de Reconquête, l'explosion de LR. Voilà. À l'heure où on parle, Éric Ciotti est encore en train de faire siège dans sa Bastille. Bon, voilà, tout ça c'est assez drôle de suivre ça. Et de l'autre côté, bon, on a un Front Populaire qui n'est pas encore finalisé. Je pense qu'on attend les derniers résultats des négociations. Mais en tout cas, tout ça est encourageant. Donc je pense que là, tout le monde est assez déterminé, a conscience de l'enjeu. Et c'est quelque chose qui dépasse complètement. Et à ce titre-là, l'appel des syndicats était très parlant. Mmh. Les syndicats, ils n'ont pas attendu que l'appel se fasse. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'on voit déjà et qu'on va voir. Voilà, moi déjà, il y a des gens qui sont non organisés et qui sont en train de s'organiser avec leur groupe d'amis.
C'est-à-dire non organisés, qui ne sont pas dans un parti.
Voilà, qui ne sont pas dans un parti, même pas dans un syndicat, et qui sont en train de. Qui, je pense que dimanche soir, à la fois le résultat et puis la dissolution directe en suivant et la possibilité que le RN passe, il y en a beaucoup qui ont conscience en fait de ce que ça implique concrètement. Mmh. Pour beaucoup de monde dans ce pays. Je pense que ça va être très rapide, mais du coup, on va aussi voir une mobilisation. Et il faut que ça dépasse, en fait, il faut que ça dépasse l'ensemble des organisations. Il faut que tout le monde fasse ce qu'il pense être utile là dans la situation.
Et c'est vrai qu'on sent, alors avant, on parlait plutôt de la peur de l'extrême droite, etc. Et puis là, il y a une sorte d'excitation aussi et effectivement d'ouverture qui arrive. Je voulais aussi t'interroger sur ce qu'on entend ces derniers jours dans les médias nationaux, mainstream. Moi, j'avais un peu décroché et puis là, du coup, j'y reviens et je suis vraiment surpris de la virulence avec laquelle on traite la France insoumise, qualifiée d'extrême gauche, ce nouveau front populaire qui serait pour Macron et pour beaucoup de journalistes et d'éditorialistes qui répètent un peu ce qu'ils racontent, une alliance du PS qui est encore acceptable avec le diable. Mmh. Comment t'en es ça ? Est-ce qu'il faut voir que, ben, en fait, ils ont peur ?
Mmh. Ouais, bien sûr. Je pense que, d'une certaine manière. Il y a une légitimité du pouvoir qui est de l'agenda que représente en fait l'option politique d'Emmanuel Macron et en fait toute cette trajectoire depuis 2017 qu'on peut appeler le bloc central ou l'extrême centre. Hein. Et comme tu le disais tout à l'heure, avec le fait que Mordicus, ils ont même plus de parlement, ils sont à 15% dans les sondages, et ils sont encore en train de faire passer la réforme de l'assurance chômage par décret. Enfin bon, voilà. Et y compris hier, quand on regarde la conférence de presse d'Emmanuel Macron, c'est lunaire, quoi. Je veux dire, tout ce camp politique-là a une responsabilité qui est énorme dans la montée du Rassemblement National et le fait qu'il soit à porte au pouvoir aujourd'hui. Voilà, c'était le débat Gabriel Attal. En fait, ils se sont enfermés eux-mêmes dans nous sommes la seule alternative face au danger de l'extrême droite, en comptant toujours sur le vote utile à gauche pour éviter le pire, etc. Et ceci est arrivé au bout. Et il est arrivé au bout notamment par la constitution du Front Populaire. Donc l'agenda médiatique qui nous fait passer pour les grands méchants, et je pense qu'il faut s'y préparer à ça, c'est-à-dire que là, dans les 20 jours qui vont arriver, parce qu'il y a une chance que le Front Populaire gagne, ça va être très virulent. Voilà, et je pense que tout l'intérêt, tout ce qu'ils essayent de faire, c'est de notamment faire peur à l'électorat de centre-gauche, mais c'est là où on est dans un moment de grande clarification, c'est-à-dire que, face à une situation où le Rassemblement National peut arriver au pouvoir, vous préférez quoi ? Vous préférez quoi ? Et qu'en est-il au final de l'arc républicain ? Je pense que ça fait des années que l'électorat de gauche, il vote utile, il a voté Chirac en 2002, il vote utile Macron, etc., pour empêcher le pire. Bon, ben, on va voir qu'en est-il des autres parties de l'électorat quand c'est le Front Populaire qui peut gagner.
Et effectivement, pour l'instant, ce qu'on a l'impression de voir, c'est qu'il y a très peu, peut-être à cause de ce battage médiatique, il y a très peu de personnes qui peut-être sont des républicains de droite qui accepteraient de voter pour la gauche et la France insoumise. Bon, c'est quelque chose encore qui reste à voir. On va peut-être avancer sur la situation donc sur le terrain et sur les circonscriptions, puisque c'est ça l'enjeu et que c'est aussi un déplacement par rapport aux élections européennes, qu'on ne va pas voter pour des listes, mais pour des députés dans des circonscriptions. Ce qu'on sait pour l'instant, c'est donc la répartition qui a été choisie entre les quatre partis de gauche. 229 circonscriptions pour la France insoumise, 175 pour le PS, 92 pour les écolos et 50 pour le PCF. On pensait qu'on aurait les noms ce matin, et puis ça tarde. Qu'est-ce qu'on sait de ce qui se passe dans les négos, Hugo ?
On ne sait pas grand-chose, je veux dire, ouais, voilà, ça se fait dans les sièges parisiens, c'est des tractations. Je pense que ça va aboutir, je ne les vois pas, ne pas être au rendez-vous de de cette date historique, quoi. C'est-à-dire que là, c'est soit on est tous ensemble, soit tout le monde disparaît. Donc je pense qu'après, il y a, c'est les grandes répartitions de circonscriptions, ça ne dit pas lesquelles sont gagnantes potentiellement par la gauche dedans ou quoi. Mais dans tous les cas, je pense que ça, bon, voilà, on va être au courant aujourd'hui, si ce n'est demain. L'ensemble des candidatures doivent être déposées d'ici dimanche. Ça va arriver très vite. Je pense que ce qu'il faut se dire là politiquement, c'est il faut dire qu'il y a un très grand danger lié à la possible victoire de l'extrême droite. Mais le vote Front Populaire, c'est pas qu'un vote contre l'extrême droite. Le vote Front Populaire, c'est un vote pour l'augmentation du SMIC, la retraite à 62 ans, puis à 60 ans. C'est un investissement massif dans l'ensemble des services publics, y compris dans les zones rurales, que ce soit le train de proximité, écoles, hôpitaux, etc., etc. Et on a besoin de ça, en fait. Ça fait 30 ans qu'on subit un agenda néolibéral qui rogne petit à petit l'ensemble des services publics, et là, ils sont tous à l'os. Et c'est ce qui conduit aussi à cette situation politique. Et en fait, quand on regarde sur le terrain, y a une fenêtre, en fait. C'est-à-dire que même les chiffres nous disent qu'il y a une victoire potentielle du Front Populaire dans 20 jours.
Que disent les chiffres alors justement
Les chiffres, ils disent que en fait, il y a 577 circonscriptions en France. Quand on prend les chiffres de 2022, donc c'est comme tu disais, c'est des circonscriptions, donc c'est des territoires qui ont des sociologies électorales particulières. Donc il va y avoir des circonscriptions qui ont des votes assez forts à gauche et d'autres qui ont des votes assez forts plutôt à droite. Que le RN est en augmentation, c'est indéniable. Aux dernières européennes, ils gagnent beaucoup de voix par rapport aux législatives de 2022. Donc en deux ans, il y a une progression qui est quand même très très inquiétante.
En valeur absolue, en nombre de voix.
En nombre de voix, oui, c'est ça. Indépendamment de l'abstention, etc. Mais il faut se dire qu'il y a tout un tas de circonscriptions où une augmentation du RN, ça les fait quand même pas accéder au second tour. Typiquement, en 2022, sur les 577 circonscriptions, il y a eu 300 circonscriptions qui étaient des duels de second tour entre la NUP, donc l'Union de la gauche, et les candidats macronistes. Il faut se dire aussi, c'est quoi l'état des forces là actuellement dans l'Assemblée nationale. Le Rassemblement national a un peu moins de 90 députés, la NUP en a 150, les macronistes on a 240.
Qui et fait... la majorité absolue c'est 289 ou 10.
C'est ça, mais qui traditionnellement qui fait le gouvernement, qui constitue le gouvernement, c'est celui qui a la plus grande majorité. Moi je pense que les dynamiques politiques qui vont avoir lieu là, dans le scrutin dans 20 jours, c'est le RN en dynamique, parce que le RN est en dynamique. Le Front populaire, si ça se confirme, sera en dynamique, parce que je pense que là, on assiste déjà aux prémices d'une mobilisation générale, et il ne faut pas qu'on se loupe là-dessus, il faut qu'on continue, parce qu'effectivement, le risque est très grave. Mais je pense que par rapport à la fois aux résultats des législatives de 2022 et aux européennes de dimanche, il va y avoir une progression du vote de gauche. Et les macronistes, par contre, sont donnés... bien en dessous des scores qu'ils ont fait en 2022, juste après la réélection d'Emmanuel Macron. Mmh. Donc ça veut dire qu'il y a tout un tas de second tour, et c'est le cas notamment en Gironde, il y a deux circonscriptions en Gironde, où la NUP a perdu au second tour de 400 voix face aux macronistes. Bon, typiquement, c'est ce genre de circonscription qu'on peut aller chercher. Imaginons que les macronistes, qui sont à 230, 240, je ne sais plus, en perdent 50, 60, 70 circonscriptions. Nous on en gagne quelques-unes, vous voyez ce que je veux dire, on peut très vite se retrouver dans le même étiage. Même si le RN serait en progression, et ben c'est le Front populaire qui serait devant.
C'est-à-dire qu'effectivement pour avoir une majorité il faut que le RN gagne 150-200 sièges, et c'est énorme,
et au vu des répartitions c'est pas du tout impossible hein. En fait il faut se dire qu'on est dans une situation qui est très incertaine, c'est-à-dire que il peut aussi y avoir des mouvements, et c'est là où je disais que c'est l'heure de la grande clarification, c'est-à-dire qu'il peut aussi y avoir des comportements électoraux, voilà, comment va se comporter le centre-gauche auprès de cette grande alliance, comment va se comporter l'électorat de droite dans le cadre de second tour RN versus Front populaire. Bon voilà, c'est ces questions qui vont se poser, mais il y a un moment, voilà, je pense que c'est l'heure où tout le monde doit prendre ses responsabilités et être face à la possibilité que le RN prenne le pouvoir, ce qui serait terrible en fait, à la fois pour nos libertés et nos droits dans ce pays.
Alors pour peut-être rendre les choses encore plus concrètes sur la Gironde, donc il y a 12 circonscriptions en Gironde.
Tout à fait.
Ouais. Les circonscriptions 1, 2, 3 qui sont rive gauche à Bordeaux, donc la première c'est Bordeaux-Nord, le Bouscat, la deuxième c'est Bordeaux-Centre, un petit peu la rive droite, la troisième c'est Bordeaux-Sud, Bègles, Talence, Villeneuve-d'Ornon, la quatrième rive droite mais plus large,
Lormont.
Voilà, et puis le bec d'Ambès. Et puis ensuite, 5, c'est le Médoc. Donc alors, la première était macroniste, deuxième, troisième, quatrième était NUPES.
En fait, sur les 12 circonscriptions, il y en a 3 qui sont déjà NUPES, donc la circonscription 2 de Bordeaux-Centre, la 3 avec Nicolas Thierry, la 3 avec Loïc Prud'homme et la 4 avec Alain David. Donc déjà, l'enjeu, c'est de regagner ces circonscriptions.
Il y a moins d'enjeux, même s'il ne faut pas dire qu'elles sont gagnées, mais il y a
moins de risques, on va dire, en tout cas. Bon, voilà, si on imagine qu'on serait en progression, bon, et qu'il y a une mobilisation du côté du Front populaire, il y a moins de risques. Mais rien n'est joué, voilà, il faut se dire que rien n'est joué. Donc, dans tous les cas, il faut mobiliser, il faut faire le maximum pour avoir le plus de voix possible. Et ces trois-là sont déjà en campagne, parce qu'on sait déjà qu'en fait, les députés sortants déjà élus NUP se sont reconduits. Donc, voilà, d'où le lancement de campagne de Nicolas Thierry et tout ça. Ils ne sont pas en train de se lancer tout seuls. On sait déjà que les sortants ont l'aval du Front populaire, et vu que les campagnes sont très rapides, ils sont déjà partis. La circonscription 1 a donné 60%, 40% au second tour en faveur de Thomas Cazenave, qui a lui-même été ministre.
Qui est macroniste.
Voilà, qui est macroniste. Bon, c'est pas du tout impossible, mais il faudrait quand même qu'il y ait un bon écroulement du macronisme pour qu'on puisse aller la chercher, puis on attend encore de savoir à qui serait cette circonscription.
Il faut quand même dire que c'est une circonscription sur laquelle il y a à la fois des quartiers populaires, il y a les Aubiers, il y a Grand Parc, il y a Bacalan, oui, et des zones plus aisées dès qu'on sort un petit peu de Bordeaux vers le nord, en direction du Médoc, quoi.
Tout à fait, et puis le grand ennemi, on va dire, surtout sur ces circonscriptions-là, et du vote à gauche en général, c'est la question de l'abstention, quoi. C'est le fait que il y a toute une partie des classes populaires de ce pays qui ne vont pas voter. Et donc là, il y a une question de comment aller chercher la plus grande participation possible. Sachant que sur des législatives, voilà, il faut se dire, je parlais de 400 voix sur certaines circonscriptions, j'ai plus en tête, mais sur d'autres, voilà, quand on dit c'est pas très risqué sur la deuxième circonscription, par exemple, de mémoire, ça se jouait à 3000, 4000 voix. Il faut se dire que, en fait, les législatives sont vraiment des élections où une voix, enfin, chaque voix compte, quoi. Et que, en fait, quand on dit c'est un ou deux points de participation, ça peut faire toute la différence. Mmh. Et c'est là où c'est très incertain, c'est qu'en fait, c'est très difficile de se dire, là, en 20 jours, au vu de la situation politique, qui va se mobiliser ou pas.
Il y avait effectivement 5000 voix d'écart sur la première circonscription entre Thomas Cazenave et Catherine Sestari, qui était la candidate écolo NUPES.
Ouais, ouais.
Donc, on va sortir de Bordeaux. Il y a la cinquième qui est le Médoc, donc qui est au FN, au RN, depuis 2022, qui semble une circonscription assez compliquée à aller chercher.
Oui, ben après, pas si compliqué que ça. Enfin, ça dépend si quelle candidature il y a et tout ça. Hein. Donc, c'est sûr que le RN étant en progression, on peut se dire que là où on a perdu en 2022, voilà. Mais il y a quand même une situation à gauche qui va être nouvelle. C'était pas si serré que ça au second tour. Le candidat sortant du RN, c'est quand même Grégoire de Fournas, le même qui avait dit qu'il retourne en Afrique et qui s'était fait exclure de l'Assemblée nationale pour ça. Il y a une campagne à mener. De toute façon, il faut se dire qu'il y a une campagne à mener dans l'ensemble des circonscriptions. Mais c'est sûr que, en fait, au niveau de la Gironde, sur les 12 circonscriptions, il y a au moins deux qu'on pense pouvoir être gagnables. Il y en a peut-être 2-3 autres de plus pour le Front Populaire. Donc, tandis que...
Lesquelles te semblent gagnables?
Vous oui,
gagnables
bah, la 9, la 12.
Donc la 9, c'est...
C'est tout ce qui est Cadillac, Réon, Langon, Montségur, Podensac, etc.
L'Entre-deux-Mers.
En fait, voilà, tout dépend de la participation. Il y a aussi une possibilité triangulaire. Enfin bon, on est en train d'essayer de faire des pronostics, mais tout ça va être assez incertain. Hein. Donc c'est pour ça que dans tous les cas, on a 20 jours, il faut mobiliser et puis voir ce qui sort le soir du 30 et le soir du 7 juillet. Quoi.
C'est pas dans la 9, c'est le sud Gironde. Hein.
Ouais, tout à fait. Et la 12, c'est un peu au-dessus.
C'est l'Entre-deux-Mers.
Oui, voilà, c'est ça, c'est l'Entre-deux-Mers. Donc ça, avec une incertitude sur le second tour, parce que le RN n'était pas loin du second tour, il me semble sur la 9, mais en tout cas, c'est les deux circonscriptions où on a perdu à 400 voix près au second tour. Il y en a deux autres, la 6 et la 7, donc la 6 avec Mérignac et Saint-Médard, et la 7 avec Gradignan et Pessac, qui sont aussi des circonscriptions qui vont être à touche-touche.
Avec les macronistes quand même devant.
Avec les macronistes, voilà, mais c'est là où il y a vraiment une bataille à mener. Si les macronistes s'écroulent. Donc en fait, il faut se dire que sur l'ensemble des 12 circonscriptions, on en a 3 et on en a 4, voire plus potentiellement à aller chercher. Si on regarde les circonscriptions qui sont potentiellement prenables par le RN, on est quand même à moins. Voyez, et donc ça nous dit quand même quelque chose. La Gironde n'est pas un département forcément ultra représentatif du national, mais en tout cas, les premières projections qu'on peut faire au niveau national donnent le jeu très ouvert. Et donc c'est là où il faut se dire, on a 20 jours en fait pour aller arracher la retraite à 60 ans, l'augmentation du SMIC et le réinvestissement dans l'ensemble des services publics, de nouveaux droits pour tout le monde, etc.
Celle qui pourrait effectivement basculer à l'extrême droite, c'est celle du Libournais par exemple, Libourne-Castillon-Sainte-Foy, où il y a eu un vote très important. Alors on devait être avec Pascal Bourgois qui était candidat sur cette circo il y a 2 ans et qu'on n'arrive pas à joindre, qui doit être en train de bosser sur tout ça. Sur celle-ci, est-ce qu'il y a un enjeu pour la gauche qu'est-ce qu'on fait là où on sent que ça va être chaud? Est-ce qu'on y va quand même pour essayer de faire quelque chose? Est-ce qu'on dit, il faudra voter Macron au deuxième tour, enfin les députés macronistes au deuxième tour, pour faire barrage?
Là, de toute façon, en 20 jours, on monte des campagnes, en plus tout le monde sort des européennes, voilà, ce qui est de l'ordre des militants politiques qui sont vraiment sur les campagnes et qui ont l'habitude de ça. Tout le monde est fatigué, là ça va être un sprint, donc on a le temps de faire des stratégies qui sont éclairs, quoi, j'ai envie de dire. Et c'est pour ça que j'appelais au tout début à dire il faut que ça dépasse, attendez pas les consignes, contactez les comités de front populaire locaux, mais sinon n'attendez pas ça pour vous organiser. Faites tout ce qui vous semble. Moi, il y a quelque chose, ça paraît bête et c'est un moyen d'action qui, je pense, est pas du tout sexy et spectaculaire, mais on reçoit beaucoup de messages de personnes qui nous disent j'ai envie d'aider, qu'est-ce que je peux faire, j'ai jamais fait une campagne électorale. Je pense que la première chose à faire avant d'imaginer des tractages, des collages, du porte-à-porte, etc., etc., c'est déjà de s'assurer que pour vous-même vous pouvez voter le 30 juin et le 7 juillet et que sinon vous vous assurez de faire une procuration. Et après, sinon, quelque chose d'assez simple qui peut être fait par tout le monde, et moi je répète ça là depuis dimanche et je vais continuer à répéter ça pendant 20 jours, faire une liste de 20 personnes que vous n'êtes pas sûr qu'ils sont allés voter aux européennes et aux dernières législatives, que vous n'êtes pas sûr de quel serait leur vote dans la situation là pour les législatives dans 20 jours, et se faire une liste comme ça et les appeler les uns après les autres, et s'assurer qu'ils ont conscience de l'enjeu, parce que là ça commence de plus en plus à diffuser et il faut que ça continue, mais voilà, il y a encore un jour j'appelais un ami à moi qui n'est pas du tout politisé, et il me disait mais de toute façon oui, il y a encore une dissolution du gouvernement, ça a changé, c'est ça, et en fait il n'avait pas compris que non, c'était une dissolution de l'Assemblée nationale, que celui qui a la majorité à l'Assemblée nationale fait le gouvernement, et qu'au vu de la situation politique on risque autant de se retrouver dans le RN que dans la possibilité du Front Populaire. Et donc il y avait déjà ça à dire, non mais là on n'est pas dans une situation de simple dissolution du gouvernement Macron qui va refaire quelque chose avec un nouveau Premier ministre. Là, on est dans une situation politique qui demande une mobilisation générale pendant 20 jours. Et donc, voilà, faire une petite liste, appeler les uns et les autres. J'ai un ami qui a déjà fait ça pour les élections européennes. Et il m'avait dit que comme ça, il avait réussi à inscrire 10 personnes, à faire 5 procus, etc. Et ça, je pense que c'est pas spectaculaire, mais tout le monde peut le faire. Et ça fait peut-être là, en 20 jours, beaucoup plus de mobilisation dans des scrutins qui se jouent à 400 voix, à 1000 voix, etc., que toutes les stratégies auxquelles pourront arriver les partis politiques.
Justement, pour terminer, toi qui bosses dans le cadre de ta thèse sur la question du pouvoir d'agir, de comment on développe aussi, on crée des collectifs et on obtient du pouvoir d'agir collectivement dans un temps aussi restreint, ça veut dire que c'est compliqué d'aller vers des gens qu'on ne connaît pas, avec qui on n'a pas de lien, et qu'il vaut mieux passer par là où on a déjà des liens, quelque chose un peu qui relie les personnes.
C'est ça, la famille, les amis, le travail, si on pense qu'on peut en parler avec ses collègues. Les amis d'amis, enfin bon voilà, c'est beaucoup plus facile de convaincre des personnes avec qui on a déjà un lien que faire convaincre quelqu'un dans la rue autour d'un tractage, donc ça c'est sûr que là dans le temps qui nous reste ça peut faire la différence, et voilà, et après je pense chacun va faire le maximum. Et il faut se dire que si ça se trouve, on arrache le bout, quoi. C'est-à-dire que si ça se trouve, dans 20 jours, il y a une cohabitation avec un gouvernement de gauche, une augmentation du SMIC, la retraite à 60 ans, etc. Enfin, je le répète parce que je pense que c'est les deux gros éléments de mobilisation là qu'il y a dans les 20 jours qui viennent. Il faut se dire qu'il faut tout faire pour se lever face à l'extrême droite, etc. Mais il faut aussi se dire que, à l'inverse, si on gagne, il peut y avoir vraiment des changements réels dans ce pays, et que d'une certaine manière ça fait partie de la situation politique. Quelque part il y a un truc où tout le monde est dégoûté de la politique, quoi. Voilà, tout le monde se dit que le politique aujourd'hui il sert plus à rien, et d'une certaine manière l'extrême droite prospère aussi là-dessus, et prospère aussi sur les phénomènes de métropolisation qui font que l'ensemble des richesses sont concentrées dans les grandes métropoles, et que toutes les villes moyennes ou petites, et n'en parlons pas autour, les services publics sont dégradés, etc. Ça, c'est des conditions structurelles qui font la progression aujourd'hui du Rassemblement National. Si demain, on a face à nous 3 ans de gouvernement de gauche, on peut casser ces dynamiques structurelles en faisant une politique qui est tout autre.
Mais merci beaucoup Hugo Foucault, on a dit l'essentiel.
Oui, c'est ça. Et puis si demain on gagne, comme disait Cécile, je la rejoins, il ne faudra pas hésiter à continuer à soutenir et mettre la pression. Je pense que voilà, c'est pas pour rien que ça s'appelle le Front Populaire. Le Front Populaire s'est arraché tout ce qui s'est arraché parce qu'il y a eu aussi des grèves absolument massives au lendemain de l'élection. Et d'ailleurs, l'élection n'était pas du tout jouée. Et c'est parce que l'élection a gagné à la surprise un peu générale qu'elle a levé un espoir d'une certaine manière qui a permis d'arracher les congés payés, etc. Donc on est parti pour ça, version 2024.
Merci Hugo Fourcade. Je rappelle qu'il était militant à la France Insoumise sur la deuxième circonscription de Bordeaux notamment et que tu es doctorant en sciences de l'éducation. Merci beaucoup
merci à toi.
12h presque 50 sur la Clé des Ondes. On va terminer cette émission en prenant des nouvelles du journal Sud-Ouest qui n'est pas paru aujourd'hui. On est au téléphone avec Agnès Védrenne. Bonjour Agnès.
Oui, bonjour.
Merci beaucoup de prendre le temps de nous répondre. Tu es secrétaire de rédaction à Sud-Ouest, si je ne me trompe pas, membre du Syndicat National des Journalistes, le SNJ, au nom duquel tu sièges au CSE de Sud-Ouest, et tu es aussi membre du Bureau National du SNJ. Pourquoi, Agnès, est-ce que le journal Sud-Ouest n'est pas paru aujourd'hui ?
Les journalistes ont voté une grève, majoritairement. Donc, les journalistes étaient en grève hier et le sont encore aujourd'hui, puisque la grève a été reconduite suite à une assemblée générale lors de laquelle nous avons voté. Ce mouvement, ça fait suite à l'annonce du PSE du mois de mars.
Le plan de sauvegarde de l'emploi, donc licenciement, voilà. C'est ça ?
C'est ça, un plan de licenciement qui prévoit la suppression de 118 postes, dont 22 postes de journalistes. Or, la rédaction était déjà dans des fonctionnements très contraints. Le journalisme, c'est l'ADN du journal et notre direction.